histoire. Je vous invite à prendre la page 6.5 qui vous aidera à vous y retrouver dans notre parcours, là où nous en sommes, dans ce parcours dense, concept de l'histoire de l'interprétation juive et chrétienne avec quelques grandes figures, quelques grandes tendances. Eh bien, il y a l'interprétation juive des Écritures. On a vu à l'époque de Bézure, à l'époque de Jésus, quels sont les courants, sadducéens, esséniens, pharisiens. Après la destruction du temple en 70, l'importance de l'assemblée de Jamnia qui va permettre au pharisaïsme de reprendre en main le judaïsme, de sorte, de fixer vers la fin du siècle un peu la liste des écritures juives, et puis c'est l'époque où la Mishnah, qui est la mise par écrit des commentaires de la loi orale, commence à prendre corps et va se développer, s'amplifier jusqu'à aboutir au Talmud, aux deux grands Talmuds de Babylonie et de Jérusalem, tandis que la tradition orale fait l'objet de l'hydrage, de commentaires, et le texte de l'assemblée synagogale est traduit et paraphrasé dans ce qu'on appelle les Targums. Alors après la diffusion du Talmud, donc les Talmuds sont réalisés au 4e siècle, on se souvient que dans la foulée de cette diffusion du Talmud, il y a une réaction qui s'ensuit, des Karaïtes qui veulent revenir à la lettre davantage de l'écriture, en deçà des commentaires successivement surajoutés, surajoutés. Puis dans le Moyen-Âge, autour de l'an 1000, on a vu l'importance de grandes figures de penseurs juifs, mais souvent en milieu arabophone, des penseurs juifs, et aussi des penseurs musulmans, comme Maïmonide, Averroès, etc., qui ont une manière aussi de réfléchir les données scripturaires. L'exégèse, progressivement s'affirmer, et la pente portée davantage vers le sens mystique, la piété, va se développer dans le hassidisme ou bien la cabale. Et puis on s'était acheminé vers l'interprétation moderne, avec la Haskalah, qui correspond au siècle des Lumières, aussi un mouvement important qui lie la manière d'envisager l'écriture comme en lien avec le retour sur la terre d'Israël, le mouvement sioniste. Ça, c'était pour un bref survol de l'interprétation juive des Écritures. L'interprétation chrétienne des Écritures, nous avions abordé ce point, Jésus et le Nouveau Testament, le fait que Jésus n'est rien écrit, mais qu'on voit dans l'Évangile comment il interprète, à la lumière de sa propre personne, les Écritures. Comment, alors, dans le Nouveau Testament, cette fois-ci comme écrit des apôtres, des disciples, Jésus apparaît comme la clé de compréhension justement des écritures qui l'annonçaient. Puis dans l'Église des deux premiers siècles, nous avions abordé ce point, l'importance de l'enseignement, puisque la bonne nouvelle est d'abord objet de prédication, et c'est dans le cadre de cette prédication orale que petit à petit le Nouveau Testament et ses écrits, les évangiles et les lettres de Paul vont prendre corps, et l'importance de la liturgie aussi, liturgie dans laquelle les écritures sont lues et commencent à être lues par les chrétiens en lumière pascale du Christ, ce qui fait qu'aujourd'hui encore on a des lectures de passage de l'Ancien Testament, donc rapport à un moment décisif de notre rapport à l'écriture qui se joue là, sans quoi nous n'aurions que, si je puis dire, même si c'est essentiel, mais le Nouveau Testament. Dans ce rapport entre l'Église et l'Ancien Testament, les choses ne sont pas simples. C'est là que nous étions arrivés au bas de la page 6 bis. Il faut d'abord un certain temps pour que l'idée s'impose d'un corpus nouveau des Écritures. L'Ancien Testament était clos du point de vue des Juifs à la fin du 1er siècle, je l'ai rappelé, et voilà que des écrits chrétiens surgissent, et c'est petit à petit qu'on prend conscience qu'il y a un nouveau corpus qu'on va appeler aussi le Nouveau Testament. Cette idée s'affirme chez les pères apostoliques, ceux qui ont encore connu la génération des apôtres, et qui s'affranchissent de la tutelle des écritures juives. Non pas qu'ils ne les exploitent pas dans la lumière du Christ, comme je le disais, mais le Nouveau Testament ne sera pas qu'un appendice des Écritures existantes jusque-là. Il aura son autonomie propre. Avec Irénée, eh bien, cette notion, le corpus distinct du Nouveau Testament, est bien acquise. Je passe à la page 6.3. Les pères apostoliques, on est encore à la fin du premier siècle, on passe cette fois-ci au deuxième siècle, et on va avoir l'émergence de pères apologistes qui doivent défendre la foi contre des hérésies, parmi lesquelles, justement, Marcion et puis un peu plus tard Valentin vont dévaloriser l'Ancien Testament. Et Irénée et Tertullien vont réfuter ces hérésies et réfléchir les rapports entre les deux testaments, réfléchir de manière équilibrée. Que veut dire que l'Ancien Testament préparait le Nouveau et qu'il s'accomplit dans le Nouveau qui ouvre, vous vous souvenez de la formule, l'Ancien était caché, le Nouveau était caché dans l'Ancien et l'Ancien devient clair dans le Nouveau. C'est ce rapport d'interaction entre l'Ancien et le Nouveau Testament qui est réfléchi. Pour défendre la foi, les pères apologistes, non seulement vont se défendre contre les hérésies de ce genre-là, mais aussi discuter avec les juifs et les philosophes païens pour essayer d'inculturer la foi aussi par rapport à des interlocuteurs qui ont quand même leur propre tradition et capacité réflexive. À la fin du IIe siècle, c'est un autre élément important pour nous, c'est que le canon, le contenu du Nouveau Testament pour les chrétiens est pratiquement, officieusement en tout cas, délimité. Il n'y a plus d'hésitation que sur l'un ou l'autre livre. Les écrits apocryphes interviennent dans cette période, on en a parlé, avec ceux de l'Ancien Testament pouvaient nous donner une bonne idée, ils sont parfois la seule source de renseignements sur certaines pentes de l'esprit, de l'état d'esprit à la jonction ainsi entre l'Ancien et le Nouveau, entre le siècle juste avant et juste après le Christ, et ils sont intéressants pour mieux connaître le milieu où on accueille le christianisme et le Nouveau Testament. Beaucoup de ces écrits dont vous avez donné la liste sont pseudépigraphes, c'est-à-dire qu'ils sont écrits pseudo sous le nom d'une autorité reconnue. Même que déjà dans la Bible, la sagesse de Salomon, les psaumes de David ne sont pas intégralement tous de Salomon, ça va pas m'en parler, il est de David, mais sont mises sur l'autorité. De même, dans les écrits apocryphes, il y a des apocalypses d'Abraham, des actes d'autres apôtres, etc. Les apocryphes du Nouveau Testament, quant à eux, on a vu, je crois que vous avez fait une allusion à un extrait de l'évangile de Thomas, où à côté de choses instructives, il y a des choses pour le moins surprenantes, donc il peut avoir des contenus factices, superficiels, voire hérétiques parfois, mais il demeure intéressant pour nous éclairer sur la mentalité populaire chrétienne des premiers siècles et sur la mentalité des dissidents. Pour connaître ce milieu-là, ces écrits sont intéressants pour voir le milieu dans lequel le Nouveau Testament a pris naissance et puis à ce moment-là commence à vraiment se diffuser. L'exégèse patristique, ce qu'on appelle les pères de l'Église, donc du 1er siècle, du côté de l'Orient, du côté de l'Occident. L'Orient, la langue et le grec, et je vous souvenais, on avait terminé là-dessus, en annonçant la différence d'accent notoire entre l'école d'Alexandrie et l'école d'Antioche. L'école d'Alexandrie, puis nom d'Alexandrie, on s'en souvient, était à la fois un juif, à la fois philosophe et l'Église pratiquait l'allégorie et dans sa foulée, ce qui était une démarche de la part d'un juif, devient démarche aussi de la part des chrétiens, tels que Clément d'Alexandrie, qui christianise la méthode. Il commence à distinguer divers niveaux de compréhension, de sens, un texte. Origène, aussi un grand exégète de l'école allégorique, et qui va préciser les principes de cette école. Et justement pour déployer les divers sens de l'écriture dans une perspective allégorique entendue encore très largement, dans un premier temps, allégorisme pouvait signifier les divers sens spirituels. Et puis après, vous m'en souvenez, on distinguait l'allégorie proprement dite, l'anthropologie et l'analogie, mais donc pour défendre les sciences spirituelles, eh bien, Origène exclut qu'on retienne un sens littéral qui serait simplement fondamentaliste. Donc il faut lire, il attend sur la vie, mais il faut, c'est ça l'accent de l'école d'Alexandrie, en déployer le sens. Dans le sens allégorique. Dans cette même ligne, d'autres auteurs, notamment ceux qu'on appelle les pères cappadociens de la région dont ils sont originaires en Asie mineure. Toute cette recherche des pères et de cette école d'Alexandrie qui scrute, qui approfondit les divers sens de la culture déjà, va être précieuse lors des premiers conciles qui auront à se situer devant des hérésies. Le premier grand concile, les deux premiers conciles œcuméniques de l'Église, c'est au début et deuxième tiers du IIIe siècle, le concile de Nicée, 325, Constantinople, 381, et ces conciles doivent se situer face au schisme. Le schisme de l'arianisme, Arius est un hérétique du début du IIIe siècle, qui avait tendance à réduire le Christ à une simple créature. Vous vous souvenez, dans le credo qu'on dit précisément de Nicée, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur de celui de la paix, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, engendré, non pas créé, engendré du Père de toute éternité, mais ce n'est pas une créature, une créature humaine. Engendré, non pas créé, c'est une formule du concile de Nicée qui répond à l'hérésie de Arius. Ou bien, dans notre schisme donatiste, c'est-à-dire qui séduit tout comme l'arianisme d'ailleurs en Afrique du Nord, et Donna était un prêtre qui était très intransigeant par rapport aux lapsis. C'est un mot latin qui veut dire ceux qui étaient tombés. Ceux qui étaient tombés, à savoir les prêtres et surtout les évêques qui avaient faibli sous les coups de la persécution romaine. Et la question se posait, est-ce qu'on peut les réintégrer dans l'Église? Oui, non, certains disaient qu'ils doivent être baptisés à nouveau, etc. Et Donna faisait preuve d'une très intransigeance qui l'a poussé dans l'hérésie. Et c'est par rapport à ces difficultés, que ces hérésies, que les conciles précisent leur formule. Les hérésies ont souvent l'avantage, je vous l'ai déjà dit, qu'elles obligent la foi orthodoxe à préciser, à se défendre et à trouver les bons arguments pour faire valoir, rendre raison de sa foi, comme dit l'apôtre. Nous sommes capables de rendre raison de notre espérance. Eh bien, la méthode, l'effort ainsi fait par ces exégètes de l'école d'Alexandrie a été d'un bon support de point de vue. Alors, j'ai mentionné ce que j'appelle une via media, c'est-à-dire l'école de Césarée, donc Césarée maritime, Palestine, donc une grande figure, c'est Eusèbe de Césarée, se situe entre une approche qui serait avant tout spirituelle, ou trop exclusivement spirituelle, et le sens de l'histoire dont l'école d'Antioche, qu'on va voir après, a, elle, vivement l'attrait. L'école d'Antioche, précisément, par rapport à des déploiements allégoriques, parfois qui versent trop dans l'hypothétique ou trop spéculatif, dit, mettre deux pieds sur terre, initié par Saint Lucien, qu'il faut défendre fermement le sens littéral ou historique, si l'on veut, non pas s'en tenir à cela, mais si on veut fonder un sens spirituel qui ne soit pas trop, trop imaginatif ou détaché de la lettre. D'un côté, le déploiement du sens spirituel, mais comme toujours, il y a un risque d'excès. On s'écarte trop de la lettre. De son côté, l'école d'Antioche insiste au contraire sur le sens littéral, le rapport au fait historique, pour pouvoir fonder un sens spirituel plus authentique. Dans cette ligne, on a un certain nombre d'auteurs. Je souligne l'importance de Jean Chrysostome, bouche d'or, littéralement, qui est archevêque de Constantinople. C'est un grand prédicateur, moraliste, concret, un grand prédicateur qui justement, sur la conduite, n'avait pas sa langue en poche. Il reprenait vivement l'impératrice, etc. Et pour cela, il a terminé lors de son deuxième ou troisième exil, c'est là qu'il est mort. Donc il était quand même vivement combattu pour la franchise de sa parole. Il a de très beaux commentaires, par exemple lorsqu'on fait le séminaire sur la première lettre aux Corinthiens, on prend en contraposition, en contrepoint, si vous voulez, un commentaire de Jean Chrysostome, et où l'on voit que, par exemple, le souci des pauvres est, à tout le détour de l'écriture, un point important à prendre en compte pour lui. Donc Jean Chrysostome se situe dans cette attention à la lettre et de sa concrétude, et d'autres encore. Et puis bien sûr, Jérôme, mais là, pour parler de saint Jérôme et son amour du texte biblique, au point de le traduire entièrement en beau latin, là, je regarde, on passe à l'univers de l'Occident, de la langue latine. Généralement, l'Occident a une mentalité moins spéculative que l'Orient. On dit se perdre dans les querelles byzantines, un peu ce que dire, il y a quelque chose, il n'y a pas une puissance réflexive, mais elle s'exprime différemment de la mentalité orientale. Et dans l'Occident, on a également une variété. Au IIIe siècle, Tertullien, on l'a vu, est un des bons réfutateurs de Marcion, qui opposait le Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Hilaire de Poitiers et Irénée l'avaient déjà fait, mais dans la même ligne, scrute précisément le rapport équilibré entre les deux testaments. Il parle de l'harmonie des deux testaments. Et il réfléchit maintenant dans la ligne d'Origène. Dans cette même ligne, évidemment, Ambroise de Milan, qui va être la figure qui va impressionner et favoriser la conversion de saint Augustin, Ambroise de Milan, qui a des opuscules sur des personnages bibliques. Il y a quelques figures de ce premier siècle dans l'exégèse occidentale. Le cardinal Martini, qui était archevêque de Milan, avait bien présent à l'esprit, Ambroise de Milan, lui aussi a fait des écoles de la parole, où il commentait des portraits bibliques, et le cardinal Danels, qui avait une grande amitié pour le cardinal Martini, a fait une brochure de quelques portraits bibliques, quelques figures bibliques. On voit qu'on s'inscrit dans une manière d'aborder l'écriture en prenant une autre grande figure. Je ferme la parenthèse. Au IVe, Ve siècle, on va avoir deux personnages notoires. Jérôme, qui est un fervent du sens littéral et de la veritas hebraica, c'est-à-dire le retour vraiment à la lettre, la fidélité à la lettre hébraïque, et qui pour cela va étudier comme il faut l'hébreu, le grec aussi pour pouvoir consulter la Septante, l'araméen, et va retraduire la Bible dans un latin plus élégant que le latin qui avait précédé. Il y avait déjà eu des traductions latines de la Bible, globalement on les appelle les vieilles latines, Vetus Latina, mais alors avec Jérôme, on a une Bible dans un latin qui se veut plus correct, plus littéraire aussi, en étant précis par rapport au texte, et c'est la grandeur de saint Jérôme qu'on appelle la Vulgate. La Vulgate latine va rester pendant 15 siècles quand même la référence d'étude de la Bible pour les lettrés dans tout notre Occident. Vous vous souvenez peut-être que Jérôme, privilégiant la Veritas Hebraica, a traduit lui-même les livres qu'on trouvait dans la Bible hébraïque. Mais lui, quant à lui, il laissait de côté les deutérocanoniques, qui viennent aussi de la Bible en grec à Septante. Et là, Augustin était vigilant, estimant que la Septante méritait aussi d'être prise en compte. Et lui défend la Septante, pas seulement le texte hébraïque, et va pratiquer une exégèse de tendance allégorique, anagogique aussi, me semble-t-il, quand on pense à son œuvre, la cité de Dieu, il y a quand même une élévation du regard, on parle de la cité céleste, de la cité terrestre. Et Augustin va livrer de très beaux commentaires, entre autres sur les psaumes, à partir de sermons qu'il a fait sur les psaumes, on appelle les enarrationes et psalmos, c'est la manière de reprendre, de commenter les psaumes. Donc, ce sont des commentaires bibliques, fruits de l'homilétique. mesurer que l'interprétation biblique pour ses pères, qui ne craignaient pas de prêcher un peu plus longtemps que nous, de tenir leur auditoire, ils avaient aussi un autre talent, une autre connaissance de l'écriture que nous, en haleine pendant une heure, dans leurs homélies, commentaient largement l'écriture. Augustin l'a fait pour lui. Et puis, son De Doctrina Christiana, entre autres œuvres, De Doctrina Christiana, qui réfléchit précisément l'herméneutique, comment bien interpréter l'écriture. Donc, il met en œuvre une herméneutique, mais aussi il réfléchit à la manière dont il procède et il expose. Des 6e au 8e siècle, la patristique va commencer à se répéter un peu. Tout comme à un moment donné, chez les Juifs, le Talmud commentaire se répète relativement en chaîne exégétique, c'est-à-dire qu'on prend des passages de commentaires patristiques et on les enfile, un peu comme des perles. C'est ça qu'on appelle les chaînes exégétiques, les extraits de commentaires. C'est l'époque aussi où on termine le Talmud. Ce déclin de la patristique, il y a quand même quelques figures encore, des hautes figures intellectuelles qui émergent, que ce soit Grégoire le Grand, Rome, le pape, un des quatre pères latins d'Occident, ceux qu'on considère comme les quatre grands pères latins d'Occident, c'est précisément Ambroise, Augustin, Jérôme et Grégoire. Donc, le Grand, Isidore de Séville, nous sommes au 6e, 7e siècle, à Séville en Espagne, dans l'univers des Visigoths, qui ont envahi l'Espagne. Et Bède le Vénérable, c'est encore un autre domaine, c'est du côté anglais au 8e siècle. Une vaste histoire ecclésiastique anglaise. Donc, ce sont des figures qui émergent dans cette période des 6e au 7e siècle, relativement plus pauvre, artistiquement, que ce qui a précédé. L'exégèse médiévale, à partir du le contexte, se le rappelle, l'évangélisation s'étend, c'est quand même au 6e, 7e siècle que le christianisme passe par le moine irlandais dans nos régions, et puis Boniface Philibrord en Germanie, et puis on va gagner l'Europe centrale, etc. Donc, ces siècles, 6e, 7e, 8e siècle, tous nos grands saints, Saint-Gérard, Saint-Lambert, etc., il y en a beaucoup qui sont de cette période, Saint-Hubert. Donc, le phénomène de l'évangélisation, à ce moment-là, c'est la période au 7e siècle où l'islam prend naissance, au début de 622, puis se répand, la période où le Talmud se diffuse, au-delà de l'interprétation allégorisante du texte, le dogme va faire face aussi aux philosophes juifs ou musulmans. On a dit un mot, Maïmonide, Boès, etc. Alors, de grands penseurs, et donc ceux qui réfléchissent l'écriture vont devoir être auteurs aussi pour nourrir le dogme à partir de l'écriture d'une manière vigoureuse. La Bible s'enseigne dans les écoles et les universités, là on est plus tard, la naissance des premières universités, la fin d'armée, enfin encore qu'il y avait déjà des écoles au moment de Charlemagne, des écoles dans la foulée des grands monastères. La Bible fait l'objet d'enseignements, des théologiens glosent en marge les pères, c'est-à-dire on reprend les écrits des pères et on les commente. Théologie articulée. À Paris, au XIe, XIIe siècle, il y a une abbaye de Victorin, ce sont des chanoines réguliers attachés à la règle de Saint-Augustin, mais cette abbaye a un grand rayonnement, elle va marquer l'interprétation biblique, on va voir dans quel sens. C'est l'époque aussi où au XIe siècle vont se rencontrer des interprètes juifs. Vous vous souvenez, j'ai évoqué la grande figure de Rashi, le grand commentateur juif médiéval, qui a commenté mot à mot toute la Bible et le Talmud. C'est l'époque des luttes de pouvoir locales, des conflits avec Rome et bientôt des croisades. Donc, un contexte quand même extrêmement riche et foisonnant. En Occident, des 8e au 11e siècle, on va être globalement fidèle à la tradition patristique, dans le prolongement des chaînes. Exégétique, comme quand les pères, Mais le XIIe et XIIIe siècle, alors, vont voir se profiler un renouveau résolument créatif. Tandis qu'au XIVe siècle, c'est le siècle de la Grande Peste, la Peste Noire, etc., nous savons que c'est un siècle sombre dans l'histoire de l'Occident, grosso modo, et on assiste à un déclin à ce moment-là. Qu'est-ce qui domine dans la manière de commenter l'écriture en Occident dans ce Moyen-Âge? La doctrine des quatre sens de l'écriture, on en a parlé, je vous ai remis simplement un petit texte à ce sujet, je ne vais pas le lire, vous pourrez le reprendre. Donc vous vous souvenez des quatre sens, le sens littéral, et puis les trois sens spirituels, qui sont respectivement le sens allégorique, en un sens un peu plus serré, qui va donner à réfléchir ce qui peut nourrir la foi, le sens tropologique, qui est plutôt orienté vers l'éthique, la morale, que dois-je faire, et le sens analogique, le troisième des sens spirituels, qui porte sur que puis-je espérer, qu'est-ce qui élève le regard vers le terme dernier de notre destinée, et qui motive d'ailleurs en plus l'élan missionnaire. Donc, ça c'est pour simple rappel, on a dit un peu rapidement, des quatre sens de l'écriture. C'est un élément important de l'exégèse médiévale. Un autre, je tourne la page. Dans les milieux monastiques, on pratique volontiers la Lectio Divina, qui relie l'écriture encore dans l'esprit des chaînes patristiques, théologie et exégèse, riche de symbolisme et d'allégorie dans cette perspective. Et c'est une manière de déployer les symboles, l'allégorie, qui va gagner jusque l'art des vitraux dans les cathédrales, les vitraux des sculptures. Alors qu'à la même époque, grandit la mystique juive de la Kabbale, qui est aussi un bout des symboles, l'allégorie, parfois dans un sens plus ésotérique, on l'a vu. Donc en milieu monastique, la Lectio Divina, dont il va déployer un sens symbolique, allégorique. Dans la Lectio de la Sacra Pagina, de la page sacrée, une manière de désigner l'écriture sainte, là nous sommes davantage en milieu universitaire, non plus qu'en milieu monastique, en milieu universitaire et scolastique, c'est-à-dire des intellectuels d'école, et qui veulent commenter précisément les textes du côté juif, je rappelle, c'est l'époque de Rashi et de son petit-fils Rashbam, qui commente la Bible et le Talmud. Et on va commenter les textes, mais en vue d'avoir une base solide pour étayer une synthèse croyante et doctrinale systématique, qui va bien sûr aboutir dans l'œuvre, entre autres, de saint Thomas. Donc, les scolastiques, les universitaires, sont attentifs au texte, mais pour, à partir de là, pouvoir organiser une synthèse de la foi plus systématique. À l'époque, c'est un peu, j'ai mis comme faire, l'entreprise de la Mishnah et de Talmud, au sens où il y a aussi un esprit d'essayer de ressaisir de manière assez exhaustive, complète, articulée, dans les différents traités du Talmud, l'ensemble des données scripturaires. Mais la Mishnah et le Talmud, étant de mentalité aussi plus sélutique, occidentale, sont parfois moins totalisables. Il y a quelque chose de plus fluide par un certain côté, parfois de plus flou aussi. Au XIIe, XIIIe siècle, les Victorins, j'ai parlé de l'importance de cette abbaye de Saint-Victor, et puis Albert le Grand et Thomas d'Aquin, qui sont les dominicains, vont scruter le sens littéral. Et ils le font dans la Vulgate de saint Jérôme, qui, si vous voulez, justement, une traduction latine assez précise. Mais ils vont scruter le sens littéral quant à ce que Dieu veut dire. Mais ensuite, Thomas d'Aquin, qui a une vaste culture impressionnante, qui lit beaucoup, se mettre à l'écoute des pères, comment ils ont compris l'écriture, et discuter aussi, selon la raison philosophique, avec les philosophes, comment Maïmonide avait influencé à distance Martin et saint Thomas. La somme théologique de saint Thomas résulte de cette confrontation systématique des interprétations biblique, à la lumière de l'Écriture, lue dans la tradition de l'Église. Donc on a, c'est quand même l'époque, on a une série de grandes figures. Au XIe siècle, le bénédictin saint Anselme, qu'on appelle le docteur magnifique, moi directement l'Écriture qu'il considère. Au XIIIe siècle, saint Thomas est appelé le docteur angélique, et saint Bonaventure sera appelé le docteur séraphique. L'église la franciscaine. Donc vous voyez qu'il y a des bénédictins, franciscains, tous les grands ordres religieux de l'époque, la compagnie de Jésus n'existe encore, bien sûr, et bien apporte à travers ces grands figures leur contribution. Mais elle se rattrapera parfois par ce côté. Ensuite, le retour à l'exégèse patristique va s'estomper. Les commentaires littéraux et historiques de l'Ancien Testament s'affirment. On recourt à l'écriture, on use la raison. Et un point important, c'est que l'exégèse, une analyse un peu serrée des textes bibliques, va se distinguer de la théologie. Avec des atouts, au sens où là, c'est l'instrument, c'est une discipline à part entière, qui a sa méthodologie. Mais vous voyez bien que l'exégèse des pères, et né en dialogue, était en même temps une entreprise théologique. D'abord, les évangiles eux-mêmes sont déjà des récits sur la vie de Jésus qui engagent une certaine compréhension théologique du mystère du salut. Saint Paul, n'en parlons pas, ou plutôt parlons-en, il a déjà une amplitude de réflexion théologique, dogmatique, et greffée sur sa connaissance des Écritures. Le Père de l'Église, c'est dans la prédication, qu'ils déploient le sens, ils déploient leur théologie. Donc, chez les pères, le lien entre l'exégèse et la théologie, enfin, on ne qualifiait pas encore comme ça, comme disciples séparés, mais était fort. Et ce lien, après, va se distendre, parfois pour un bien, mais parfois au préjudice de l'unité, précisément, de la pensée chrétienne. L'exégèse va se distinguer de la théologie. La théologie pour laquelle l'écriture, chez un dominicain comme Melchior Cano, devient un réservoir d'arguments pour expliquer les dogmes. On ne va plus tellement s'intéresser à commenter un livre biblique pour lui-même, ou comme Augustin faisait, ou saint Thomas donne un commentaire de saint Jean, mais on va puiser dans l'écriture des citations qui peuvent servir de réservoir d'arguments pour des thèses théologiques. Donc c'est un usage à la fois qui continue à honorer un certain lien entre l'écriture et la théologie, mais aussi quand même un peu réducteur dans l'approche de l'écriture. Le sens tropologique et analogique, les sens tropologiques, donc davantage tournés vers l'éthique et analogique vers la mystique, la spiritualité, hors de leurs sources communes scripturaires, vont donner des disciplines, et j'ai mis entre parenthèses, trop séparées parfois. C'est-à-dire que d'un côté, le déploiement du sens tropologique va donner lieu au déploiement de la morale et du droit. De l'autre côté, le sens analogique va se développer en théologie spirituelle et mystique, mais on risque d'avoir des branches trop séparées, des traités séparés de la théologie, où en fait, si les quatre sens, c'est une manière de distinguer ce qui, dans l'écriture, est unifié, va pouvoir être distingué, mais sans être à l'exclusion l'un de l'autre. En Orient, des exégètes du côté de Byzance, en Perse et Syrie aussi, mais malheureusement avec pas mal d'hérésies, notamment l'hérésie des Nestoriens, qui considèrent qu'il y a deux personnes en Christ. Il y a deux natures en Christ, nature divine, nature humaine, mais qu'une seule personne. Et ça, quand même, Donc l'hérésie nestorienne, ou bien au contraire, monophysite, c'est-à-dire qui estime qu'en Christ, il n'y a qu'une nature. La nature. Donc ça, ce sont des pentes dans lesquelles versent certains exégètes en Orient. Dans l'orthodoxie, l'exégèse va continuer encore plus dans l'Occident à s'inspirer des pères. Et en continuant, on voit bien le climat de l'orthodoxie à être attentive à ce qui est de l'ordre de l'allégorique et du symbolique. Des icônes. L'exégèse depuis la Renaissance, on voit apparaître la critique, un esprit critique, Le Moyen-Âge avait offert une belle synthèse de la culture et de l'Église. La foi était vraiment un donné partagé dans toute la société. Largement, au Moyen-Âge. Cette synthèse va être quand même à la fois enrichie, mais secouée aussi par l'humanisme renaissant, qui, vous vous en souvenez, retrouve l'antiquité vivante, l'antiquité gréco-romaine, mais aussi égyptienne, etc., ses langues, ses littératures, ses vestiges. Et dès lors, ces nouveaux instruments de retour à une précision, dans une meilleure connaissance des langues, des vestiges archéologiques, etc., va influencer aussi l'approche biblique. La Bible aussi devient objet de critiques textuelles, littéraires, historiques. Au XVIe siècle, des catholiques, des protestants, des juifs veulent, dans cet esprit d'approche critique, eh bien, mieux comprendre les textes. À l'époque, on doit à Erasme, un grand humaniste de Rotterdam, 15e siècle, on lui doit la première édition critique de la Bible, justement, c'est-à-dire qui, sur tel ou tel verset difficile, dans des explications textuelles, historiques, etc. C'est ça qu'on appelle une version critique. La première édition critique de la Bible, qui vise à avoir un texte bien établi et compris. Étienne Langton, qui est un Anglais formé à Paris, va donner la division de la Bible en chapitres au XIIe, XIIIe siècle, et c'est Robert Estienne, lexicographe et imprimeur du roi, qui va donner la division en versets. Donc ce sont quand même des choses importantes, puisque cette division est partagée par toutes les confessions chrétiennes et les juifs. C'est trouvé dans les références, c'est précieux. On imprime à l'époque des traductions de la Bible. Luther est au départ de formation exégétique. Un bon bibliste. Il va traduire à partir des textes originaux toute la Bible, en commençant le Nouveau Testament et puis tout l'Ancien Testament, en posant les bases ainsi de l'allemand moderne. Donc c'est quand même une grande œuvre de traduction de Luther. J'ai parlé de la traduction de Moïse Mendelssohn, ce juif en Allemagne, qui rend le nom de Dieu par l'Éternel. En Angleterre, on a la King James Version, pour ne pas s'en étonner, puisque dans l'anglicanisme, le lien entre la religion et la royauté, la couronne royale, la reine Elisabeth, etc., est marqué. Le King James Version, qui est la grande version à l'époque de la Bible en anglais, la Bible en français alors de Lefebvre d'État, la Sainte Bible, imprimée sous le modèle de Charles Quint, des Bibles à Genèse, et une Bible en langue française qui est restée importante à l'époque, au XVIe siècle, la Bible de Le Maistre de Sacy. Des traductions bibliques faites d'abord au départ de la Vulgate, et puis progressivement, on revient en deçà du latin aux textes originaux eux-mêmes. C'est l'époque des Bibles polyglottes. Qu'est-ce qu'on appelle les Bibles polyglottes? C'est des Bibles dans lesquelles il y a plusieurs colonnes. On a le texte hébraïque et puis d'autres langues anciennes, le grec, le copte, le syriaque, etc. Les grandes Bibles polyglottes. Et cela, c'est significatif dans diverses capitales européennes, à Alcalá, l'Espagne, Anvers, dans la région 16e, Paris et Londres au 17e. Donc on voit que dans ce mouvement, dans la foulée de la richesse de la Renaissance, ce mouvement portant une grande attention au texte biblique, bien, se déploie dans toute l'Europe. Des Bibles rabbiniques aussi. Qu'est-ce qu'une Bible rabbinique? On a le texte hébraïque, qu'on appelle le texte massorétique au milieu, et puis on a autour les paraphrases en araméen et des commentaires. Donc, ça donne accès à la lecture pratiquée par les rabbins. Et des livres rabbiniques dont l'exégèse intéresse les lettrés chrétiens à l'époque. Déjà, il s'est intéressé à l'œuvre de Rashi et il ne mesure pas comment il y a eu quand même de grands contacts culturels entre christianisme et judaïsme. À travers le sens littéral, on veut reconstruire l'histoire biblique. Non pas contre la théologie de l'Église, mais un peu en marge. C'est-à-dire que l'histoire va au nouveau se poser davantage en discipline autonome dans la manière de comprendre la Bible par rapport à la théologie de l'Église. Puis, avec l'esprit des Lumières, les philosophes, on va voir des réductions critiques philosophiques qui vont mettre en cause les causalités surnaturelles évoquées par la Bible. Oui, mais c'est prodige, on nous parle de la Bible, etc. Ça n'a pas place pour un esprit rationnel qui ne croit qu'au fait naturel. Enfin, je pourrais dire en deux mots. Et ça, c'est ce qu'on appelle une réduction critique qui conteste l'aspect des. Le donné surnaturel et transcendant qui émerge aussi dans la Bible. Le rationalisme du XVIIIe siècle, donc le siècle des Lumières, va contrer les vues traditionnelles pour proposer des reconstructions de l'histoire d'un peuple qui se dit, j'utilise l'expression pour manifester le scepticisme qu'il entretient, qui se dit marqué par la révélation. Et ces reconstructions sont souvent quand même fort conjectural et au gré des systèmes philosophiques, justement. On reconstruit les choses quand même à partir de la manière de penser de la science. Au XVIIe siècle, Richard Simon, qui est un prêtre de l'oratoire, va être appelé le père de la critique. Pourquoi ? Il a commencé à entrevoir que les livres bibliques, comme le Pentateuque, n'avaient pas été écrits d'un trait. Le Pentateuque était traditionnellement attribué à Moïse. Donc c'est les cinq premiers livres de la Bible. Et toute la Torah a été écrite par Moïse. Mais Richard Simon, lisant le texte attentivement, a commencé à voir qu'il y avait des différences de style, qu'il y avait des répétitions, qu'il y avait des allusions à des événements qui ne pouvaient pas exister à l'époque de Moïse. Et donc il s'est dit, il a commencé, toute la suite lui a donné raison, à se dire, mais tout n'est pas de la plume de Moïse. Et à partir de là, il a commencé à voir qu'il y avait eu divers moments, diverses phases, diverses écoles rédactionnelles qui ont finalement abouti, je dirais, en étant prise, à la rédaction finale. Et donc il a été un des premiers à aller dans ce sens-là, et Bossuet lui opposait à ce moment-là la tradition, considérant comme une impiété abominable qu'on puisse douter de la paternité mosaïque de tous les Pentateuques. Moïse lui oppose la tradition, et ce qu'on nommera aussi la double vérité. C'est-à-dire qu'on essaie de rendre compte des choses selon la foi et ou selon la raison. Mais on risque de devenir un peu schizophrène, en pratiquant une double vérité. La crise protestante. Donc, tout ceci pour dire, ouais, dans la foulée de la Renaissance, l'avènement, la montée d'un esprit critique, mais qui souvent a des apports, mais ne va pas sans excès. La crise protestante, la réforme initiée par Luther. Vous vous souvenez qu'il veut revenir à l'écriture sainte. Et Luther se situe dans l'opposition à l'autorité de l'Église et du magistère. Il a quand même, suite à la fête des indulgences, entre autres, une dent contre le pape de Rome. Et c'est dans ce contexte qu'il veut revenir à l'écriture seule, sans trop prendre en compte la tradition qui l'a interprété progressivement. L'écriture s'interprète elle-même dans l'Esprit Saint qui peut être donné aux croyants individuels mais aussi à un groupe. Mais en tout cas, pas directement selon l'interprétation que propose le magistère traditionnel. L'exégèse réformée, par rapport à cette montée d'un esprit critique issu de la Renaissance, va se positionner de manières qui sont parfois sensiblement différentes. On peut distinguer une aile droite, un centre droite et une aile gauche, si je puis dire, une manière de résumer les choses. L'aile droite pratique un littéralisme outré, c'est-à-dire qu'il faut tenir absolument que les choses se sont passées comme la lettre de l'Écriture le dit, jusqu'au fondamentalisme, tant que les témoins de Jéhovah. Ou bien au concordisme forcé, c'est-à-dire on essaie à toute force de faire concorder ce que dit la Bible et ce que révèle la science. Bon, l'affaire Galilée, encore partie de ce genre d'affaires, la Bible décrivant le soleil tournant autour de Jéricho n'avait pas pour but premier de faire un traité d'astronomie, le soleil de l'astronomie, etc. Donc, on voit qu'il y a d'un côté un littéralisme qui peut parfois verser dans le fondamentalisme concordant. Un centre droit allie les vérités de foi et l'interprétation existentielle des textes, et tout en se montrant capable d'accueillir au besoin un sain esprit critique. Et donc c'est un esprit critique, donc qui respecte la lettre, mais en même temps veut qu'en subsistent des vérités de foi qui nourrissent l'existence chrétienne, l'interprétation existentielle. Calviniste, luthérien, orthodoxe, et pas mal d'anglicans, se situe dans cette mouvance. Et puis une branche davantage à gauche, on peut dire, le protestantisme libéral, qui peut parfois verser dans des excès rationalisants. On s'oppose au dogme chrétien. Au XVIIe siècle, il manifeste un souci aigu de la critique. Et au XVIIIe siècle, j'en ai déjà parlé, ce protestantisme libéral se déploie dans l'esprit un peu de philosophe des Lumières, de Loffler. D'une manière un peu rapide de typer, mais pour que vous voyez que du côté protestant aussi, diverses pentes de l'esprit, tantôt plus sensible à la lettre, tantôt non, c'est ce qui doit faire vivre, etc., eh bien, sont présents. Quelles sont les questions litigieuses au terme de ce parcours, enfin, qui donnent. Débat. Pour l'Ancien Testament, une question pour discuter, c'est justement, Richard Simon avait donné le branle, la formation du Pentateuque, du problème littéraire, il avait constaté des styles différents, des répétitions dans le texte, on passe à la question historique des sources et des traditions sous-jacentes. Et en ce sens, apporte leur contribution à certains genres. Donc le philosophe juif Spinoza, il s'intéresse aussi à l'écriture, et Richard Simon. Et cela va aboutir, ce questionnement sur la formation du Pentateuque, à ce qu'on appelle la théorie documentaire au XIXe siècle, qui voit que derrière le Pentateuque, tel que nous le recevons dans son état final, il y a eu le travail de plusieurs écoles rédactionnelles et peut-être de la confluence de plusieurs documents, teintés d'accents théologiques différents. Donc ça c'est pour la question de la formation du Pentateuque, mais c'est à partir de là qu'on a pu mieux concevoir que l'écriture des livres bibliques s'est étalée dans le temps et, je dirais, avant d'aboutir, a été l'objet de relectures, tantôt dans tel courant théologique, relectures et relectures avant le texte dans son état final. Pour le Nouveau Testament, on a des éclairages intéressants, mais toujours, si on se porte dans l'excès, avec le risque des interprétations biaisées ou réductrices. À quoi s'intéresse-t-on ? On s'intéresse fort à l'origine du christianisme. Qu'est-ce qui s'est-il passé dans ce premier siècle ? Quel est le rapport entre la tradition chrétienne ecclésiale naissante et le Christ tel qu'il fut en vérité ? Vous venez évoquer ce problème d'un soupçon portant sur un écart qu'il y aurait entre le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi, tel que se le représente. Les chrétiens, et bien sous influence hégélienne, on soupçonne les apôtres d'avoir quelque peu idéalisé la vie de Jésus dans des récits évangéliques qui ne seraient pas trop fidèles, sous-entendu, à la réalité historique, et que dès lors il faut démythologiser, c'est-à-dire il faut gratter la couche d'amplification, d'embellissement, etc., qui ont été mis par les apôtres, et bien pour retrouver ce qu'il en fut. C'est ce qu'on appelle l'entreprise de démythologisation. Alors que par parenthèse, un évangile comme Marc, on voit bien que les apôtres ne sont pas trop complaisants vis-à-vis de leur réticence, de leur lenteur, etc. On voit bien que c'est enraciné dans l'histoire qu'ils ont vécue. Ils n'ont pas trop embelli les choses quand même. Strauss et Renan, avec sa vie de Jésus, et, je dirais, bon, parfois un peu dans ce sens. Quant à Bohr, il réfléchit la naissance du christianisme comme un grand effort pour concilier la tendance dans l'Église entre les judéo-chrétiens, qui dépendent davantage de la figure de Pierre, et les chrétiens venus du paganisme, les paganes chrétiens, davantage rattachés à la figure de Paul, l'apôtre des nations. La théologie libérale que j'ai évoquée retient la vie de Jésus un message notamment existentiel, ce qui puisse nourrir la foi chrétienne, mais à la limite, l'enracinement dans l'histoire, du moment que ça me fait vivre aujourd'hui, c'est ça l'important, l'enracinement dans l'histoire importe trop peu parfois pour eux. L'école sociologique interprète le christianisme en le replaçant dans le courant des religions de l'Orient hellénistique. Dans toutes ces choses, il y a des choses éclairantes, mais aussi souvent des risques de réduction. Le christianisme, si Jésus est vraiment le Fils de Dieu, n'est pas qu'une religion parmi d'autres dans l'ensemble des religions orientales de l'époque. Voilà pourquoi un parcours un peu dense et rapide de l'interprétation juive et chrétienne des Écritures. Je vous ai remis le plan à la partie 5. Et puis, j'ai mis un petit encart en bas de la partie 5 d'un certain nombre de mots, de noms propres, de noms communs, qui interviennent dans les pages. Ils sont tous pris dans les quatre pages dans lesquelles j'ai résumé quand même 25 pages d'ici la ruse des jardins du Père Adermakers. Les premiers pages, c'est un peu chargé. Bien sûr, dans ces noms, il y a des choses plus importantes. Si vous me dites Luther, jamais entendu parler, si vous n'avez pas d'idée ce qu'est un Targum ou le Talmud, en tout cas, maintenant, etc. Mais vous verrez. Donc, si ça aide ceux qui aiment davantage l'histoire, hein, si ça vous aide à réaliser des choses, c'est... Je passe à la page 7.1, abordant la question de la parole révélée, son inspiration, sa vérité. Vous êtes bien conscient que les deux dernières leçons étaient quand même plus chargées au point de vue. Il n'y a rien à faire, il y a un certain nombre de noms dont il faut avoir entendu parler. Les auteurs qui ont passé, laissé une œuvre magistrale qui a influencé l'Église pendant deux siècles, et on ne connaît même pas les noms. C'est un peu dommage, quoi. Pour moi, on va pas entendu parler de saint Thomas d'Aquin, de saint Ambroise, de Grégoire le Grand, etc. La parole révèle son inspiration, sa vérité. Vous vous souvenez dans Dei Verbum, un premier chapitre part de la révélation elle-même. C'est au service de la révélation que l'Écriture va prendre le temps. Et un troisième chapitre est consacré à l'inspiration divine de l'Écriture et à son interprétation. C'est sur ces passages-là de Dei Verbum qu'on s'appuie davantage. Je vous rappelle une manière dont j'avais situé la question de la révélation dans la deuxième leçon. Dieu prend l'initiative de se révéler à l'homme. Et c'est nécessaire parce que l'homme est fini et pécheur et de lui-même il n'arrive pas jusqu'à Dieu. Donc Dieu fait sa part du chemin, se révèle à l'homme. Cette révélation de Dieu s'opère en acte et en parole. Dans ce que Dieu fait, il agit pour son peuple, il dit, il parle à son peuple. Cette révélation est une lumière de connaissance vers l'esprit, mais aussi c'est une offre et une action de salut. Parler de l'accent sur l'aspect existentiel de la foi qui fait vivre. La révélation et le salut offert, ben ils ne sont rien s'ils n'ont pas reçu. Ils appellent la réponse de l'homme. Et c'est une réponse qui se fait dans la foi. Et enfin, l'objet de cette foi, ce n'est pas simplement Dieu, si je veux dire, tel qu'il se révèle dans l'Ancien Testament, mais bien sûr, il se tourne vers Jésus-Christ. Cette révélation et ce salut se donnent pleinement en Jésus-Christ et dans son Église. Pas que l'esprit du ressuscité n'agisse pas hors des frontières de l'Église, mais enfin, il se donne quand même de manière privilégiée à travers l'Église qui lit les évangiles, qui vit des sacrements, etc. Je vous donne alors une petite note sur le concept de révélation d'après Dei Verbum. Donc là, je cite Jean-René Marquers, qui est lui-même un autre auteur, en redisposant un peu le texte et en mettant entre crochets quelques ajouts. Par exemple, premier paragraphe, on peut considérer que c'est une définition, une tentative de définition. La révélation est l'acte de Dieu qui dévoile son identité, qui il est, et son action, ce qu'il fait. Pourquoi ? Afin d'introduire les hommes dans sa propre vie. Ce n'est pas simplement pour les informer en les laissant un peu à l'extérieur de sa propre vie, non, il s'agit de les introduire dans sa propre vie et dans son intimité, et par n'importe laquelle, son intimité trinitaire. C'est donc l'acte de Dieu le Père qui se manifeste, se fait connaître, se révèle par son Verbe incarné afin de ramener les hommes à lui dans le moment de l'Esprit Saint, hein, la perspective trinitaire. Il s'agit de la dynamique divine dans l'histoire du salut où la Trinité communique, pas simplement fait connaître, mais dans le prendre part à la fois, hein, sa vie propre et la connaissance. On distingue parfois trinité économique, trinité immanente. ça veut dire Trinité immanente, Dieu trinitaire, tel qu'il est en lui-même, ce qui se passe entre le Père, le Fils et l'Esprit. Trinité économique, quand on parle de l'économie du salut, ça n'a rien à voir avec les sciences économiques actuelles, ça veut dire la manière dont le salut se dispense concrètement dans le monde et au fil du temps. Les étapes de l'histoire du salut, l'économie salutifique et l'esprit qui y préside. Bien. Alors ce qu'on appelle la trinité économique, c'est la trinité saisie à partir de ce qu'il en est pour nous, ce qu'elle nous donne dans nous. Et avec l'évangile, on voit que c'est à partir de la trinité économique, c'est-à-dire telle qu'elle se partage, puisque le Fils nous fait connaître le Père, dont il dit « Personne ne l'a jamais vu, mais moi je vous le fais connaître », et le Fils va aussi nous communiquer l'Esprit. Donc c'est à partir de ce que les apôtres ont expérimenté de l'identité du Fils qui renvoie son Père et qui communique l'Esprit, que alors, à partir de cette dimension économique de la Trinité qui se communique, qu'on a pu davantage penser ce qu'il était, ce qu'il en était de la Trinité de Dieu tel qu'en lui-même, auquel nous n'avons pas accès, si ce n'est que Dieu s'est révélé à nous en se communiquant. La tradition juive dira d'ailleurs, non pas tellement que Dieu se révèle, mais plutôt qu'il révèle à l'homme le sens de sa vie en lui et comment il peut l'atteindre. Le juif a toujours une perspective aussi, qui suis-je moi, juif aux yeux de Dieu, et comment, en suivant la Torah, puis-je rejoindre Dieu ? Il ne pense pas directement, Dieu est tellement transcendant que dire... Dieu dit que tel qu'il se révèle en lui-même, non, au moins il révèle qui je suis pour lui et comment je peux l'atteindre. Par là, bien sûr, il se fait connaître. Ça, c'est pour la définition de la révélation. Les moyens qu'elle se donne, la médiation de cette auto-révélation dont Dieu se révèle par lui-même, consiste tout ensemble dans des événements salutaires et dans les paroles. Et les deux ne sont pas simplement juxtaposés, c'est les paroles qui les interprètent. En Saint Jean, quand Jésus fait un miracle, le discours qui suit est à comprendre ce qui s'est passé dans le miracle, la portée des événements. La médiation consiste tout ensemble dans des événements salutaires et les paroles qui les interprètent. C'est comme ça que Dieu se révèle. C'est donc à l'intérieur d'une histoire sensée que Dieu se fait connaître et non pas par la transmission de vérités conceptuelles. Ça dépend. Dans le concret de l'histoire, que Dieu se fait connaître. Ça, c'est un peu contre l'évidence. Cette médiation est possible parce qu'elle est offerte dans une personne, qui est le médiateur. Troisième paragraphe. Le Christ est en même temps le médiateur insurpassable et la plénitude de la révélation. Toute l'histoire d'Israël qui l'a précédée pointait vers lui, est une préparation. En tant que pédagogue vers le Christ. C'est une expression que Paul emploie à propos de la loi en disant « La loi a été un bon pédagogue jusqu'au Christ. » Mais maintenant, dans la justice qui nous a bien miséricordieusement dans le Christ, c'est ça qui nous plonge vraiment en fait. Donc, l'Ancien Testament, l'histoire d'Israël, la loi a été une bonne préparation, un bon pédagogue vers le Christ, en Jésus, dans sa parole et son action, et au sommet, dans son mystère pascal, mort et résurrection, Dieu s'est manifesté de manière, cette fois-ci, non plus simplement préparée, mais définitive, décisive. Le lien entre création et rédemption dans la révélation. Dieu se révèle déjà dans sa création. Mais il se révèle aussi en intervenant dans l'histoire. C'est ce qu'on appelle l'histoire du salut. Israël, et puis surtout en Jésus. Donc la révélation de Dieu dans l'histoire poursuit et approfondit la révélation de Dieu à travers les réalités créées, comme le souligne Saint Paul. Au début de Romains, dans la sagesse, nous disent « Dans la beauté des œuvres créées, nous avons quand même déjà un certain accès à la beauté du Créateur. » Il se révèle déjà. Mais il se révèle plus clairement dans l'histoire. C'est parce que tout a été créé par le Verbe de Dieu que sont connectées la révélation dans la création et celle qui est donnée dans l'histoire du salut. Qu'est-ce qui est dit là? Dans le credo, nous disons « En lui tout fut créé, dans le Verbe de Dieu ». Donc c'est dans le Verbe que tout a été créé, création. Et c'est ce Verbe qui s'est incarné pour notre salut, rédemption, C'est le même qui est le principe de la, enfin, la, oui, intervenant dans la création et qui s'incarne pour faire aboutir la rédemption. Et c'est dans sa personne que s'unissent ainsi l'œuvre de création et l'œuvre de rédemption. Résumé, on perçoit donc un changement de perspective par rapport à Vatican I. La révélation apparaît désormais moins comme un ensemble de vérités surnaturelles communiquées par Dieu, c'est cela aussi, mais c'est pas ça avant tout, que quoi ? Comme l'auto-manifestation divine, Dieu qui se révèle, deuxième paragraphe, dans le champ de l'histoire humaine, troisième paragraphe, par le Christ qui est médiateur, et quatrième paragraphe, qui est médiateur à la fois de la création et de l'œuvre du Saint. Quatrième point, je termine là. Révélation, christologie, ecclésiologie. Il y a un lien entre la manière dont Dieu se révèle, la personne du Christ, et la manière dont cette révélation nous atteint à travers l'Église, qui est le corps du Christ. La révélation divine, qui constitue l'objet de la foi chrétienne, c'est la présence du mystère de Dieu à la pensée et à la vie des hommes. Présence qui se signifie et s'actualise dans le comportement de la communauté ecclésiale, lorsque celle-ci commémore le destin du Christ mort et ressuscité. Dans la vie de l'Église, qui commémore et fait mémoire authentiquement de la manière dont Jésus s'est révélé et nous a sauvés, c'est bien que nous avons accès à la révélation. La foi en la révélation, puisque révélation appelle son corrélatif, c'est-à-dire la disposition qu'il accueille comme nom de la foi, étant corrélatif, cette définition appelle celle de la foi, croire au sens chrétien du mot, c'est reconnaître à travers le message et la vie de la communauté ecclésiale, j'ai ajouté quand même entre crochets la vie du Christ et de la communauté ecclésiale, parce que dans l'esprit, dans une forme quand même, et dans la lecture des évangiles, une forme d'immédiateté aussi avec le Christ lui-même, même si en tant que baptisé de l'Église que nous vivons, à travers le message et la vie du Christ et de la communauté ecclésiale, eh bien on reconnaît la présence mystérieuse de Dieu vivant qui par le Christ se révèle et se communique à l'homme comme sa vie éternelle, son devenir absolu. Donc j'ai repris ce texte dans ma terce qui cite lui-même Bouillard. Parce qu'il me paraissait clair, j'ai mis des faits soulignés, j'ai numéroté pour manifester un peu comment il progresse. Nous continuerons à partir de la révélation et surtout de l'inspiration de l'écriture la fois prochaine. Merci de votre attention.